Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avec donc ce dimanche de la Septuagésime que nous célébrons aujourd'hui, nous entrons dans une courte période, 2 semaines et demie, qui a de quoi nous dérouter un petit peu. En effet, elle n'est pas réellement partie intégrante du carême, on n'y est pas encore soumis à la discipline quadragésimale, si austère, qui nous fait redouter ce carême qui arrive très tôt cette année, mais le plus tôt on y entre, le plus tôt on y sort, comme on dit. On n'est donc pas encore soumis à la discipline de carême, c'est-à-dire qu'on peut terminer ces boîtes de chocolat de Noël, et en même temps, on n'est pas tout à fait hors du carême non plus, comme en témoigne et la couleur violette des ornements, et l'abandon de l'Alléluia avant la lecture de l'Évangile, et ce jusqu'à Pâques, et puis surtout, eu égard à la teneur des textes, qui sont dans ces dimanches Septa et Quinquagésime, sont soumis à notre méditation. Et cette ambiguïté-là, de cette période un peu étonnante, a incité les artisans de la réforme liturgique à tirer un trait sur cette période, prenant argument du fait qu'elle était bâtarde, et d'autre part que, elle était apparue récemment au cours de l'histoire de la liturgie. Je n'entre pas dans la polémique, peu me chaud, mais je me contente de me réjouir avec vous de ce que, dans cette forme extraordinaire de rite romain que nous avons le privilège de célébrer ici, il nous est offert ces quelques jours supplémentaires au carême, si j'ose dire, tout en n'étant pas encore dans le carême. C'est quand même assez confortable, au fond, on en prend tout ce qui peut nous aider, et puis bon. Voilà, nous avons cette chance, comme nos frères orientaux, du reste, qui eux ont gardé cette discipline au point de l'appeler le pré-carême, qui entre avec le carême en tant que tel, dans cette période que l'Orient appelle le grand carême. Et à quoi sert donc cette période préparatoire, sinon précisément, alors chez les orientaux, à déjà en réalité se préparer à la discipline de carême, puisqu'au fil des dimanches, ils abandonnent la viande, les œufs et les laitages, c'est vous dire que nous avons, nous autres, de la chance d'être latins, si je veux dire, mais surtout, et là, nous avons cela commun avec eux, ce temps-là nous aide à méditer sur le fil conducteur du carême dans lequel nous allons entrer, ou plutôt à élaborer un plan de bataille, mais sereinement, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas encore dans les conditions véritablement quadragésimales. Ce texte d'aujourd'hui peut paraître déroutant, ou plutôt la contradiction apparente qui existe entre ces deux textes, j'y ai déjà fait allusion une année précédente, entre l'épître de saint Paul qui nous pousse à entrer dans le combat, à meurtrir notre corps, il faut s'entendre, saint Paul a des expressions frappées au coin d'un Orient un peu excessif dans sa manière de parler, mais nous voyons très bien ce qu'il veut dire, entrer dans une certaine ascèse et entrer dans le stade pour remporter la palme, en nous précisant que seuls les plus efficaces, les plus vigoureux accéderont au podium, et qu'il en va de même dans l'ange spirituel, en même temps que dans l'Évangile, la parabole nous invite, semble-t-il, exactement à l'inverse. On pourrait croire que l'Église se tire une balle dans le pied, et le Seigneur Jésus qui prononce cette parabole avant l'Église, dans la mesure où il vante, semble-t-il, les ouvriers de la 11e heure. C'est un peu la même chose, du reste, qui prévaut dans un certain nombre de passages de la liturgie, de textes qui nous sont soumis pendant la liturgie de carême, avec le retour du fils prodigue. Là encore, il fait bon être fils prodigue, comme il fait bon aujourd'hui être ouvrier de la 11e heure apparemment, puisqu'on touche la même rémunération que les autres. Il y a encore d'autres passages, par exemple, ce bon larron, sur lequel il nous demande de méditer le vendredi saint, ce bon larron qui a passé sa vie à faire des exactions, au point qu'il est condamné comme malfrat, et qu'à la croix du Christ, au dernier moment, il se convertit et se voit promettre aux merveilles le ciel dès après sa mort. On se dit que vraiment l'Église est étonnante, alors que saint Paul nous invite à combattre et à élaborer du moins un plan de bataille pendant ces 2 semaines et demie, voilà qu'on semble au contraire nous inviter à travailler moins pour gagner plus, pour parler selon des bulgares contemporaines, ou au moins travailler moins pour gagner autant. C'est vrai qu'il y a là quelque chose d'apparemment contradictoire si l'on prend en compte effectivement le bon larron, le fils prodigue et les ouvriers de la 11e heure. Mais je vous fais remarquer qu'il y a dans ces paraboles ou dans ces passages d'autres personnages. Ceux de la première heure par exemple, le fils aîné resté fidèle à son père dans la parabole du fils prodigue, ainsi que tout le collège apostolique et les saintes femmes qui sont près de la croix, sinon immédiatement au pied de la croix, dans la proximité de la croix, qui eux ont également une rémunération et pas des moindres. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se focaliser sur les personnages qui ont fait l'objet de la miséricorde pour déjuger des autres. Le fils aîné, que lui dit le Seigneur, ou que lui dit son père, tout ce qui est à moi est à toi. Il n'en va pas de même avec le fils prodigue, si gratifié qu'il soit par son père miséricordieux. Le bon larron, certes, c'est de lui offrir le ciel tout de suite, après sa mort, était déjà immense, mais les 12 apôtres, ou au moins les 11 apôtres, qui ont suivi le Seigneur depuis le début, se voient promettre non seulement la vie éternelle, mais encore de pouvoir juger les 12 tribus d'Israël sur 12 trônes, pardon du peu. Et il en va ainsi de toutes les histoires où, semble-t-il, le dernier converti est finalement autant gratifié que le premier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est que ces textes-là, et notamment celui d'aujourd'hui, nous invitent à disposer notre âme de telle sorte que nous ayons non pas d'écart les uns envers les autres pour savoir quelle posture il faut avoir, sur quoi il faut tabler, et que nous soyons là à nous comparer sans cesse pendant ce carême, ce serait terrible, ni nous n'avons à nous comparer quant à la sainteté en jalousant quelqu'un qui semble plus saint que nous, ni nous n'avons à déplorer que d'autres soient si peu assidus à la discipline de carême, quand nous-mêmes sommes évidemment un maître en la matière. Bref, il y a là d'autres paraboles qui nous enseignent, telles du publicain et du pharisien en temps, vous voyez de quoi je parle, mais on ne nous demande pas de nous mettre dans la peau de ces gens-là, on nous demande, et le faisons-nous, je ne le ferai pas, on nous demande de nous mettre dans la peau, me semble-t-il, du maître de la vigne, du père de la parabole du fils prodigue et du fils aîné, et du Seigneur Jésus sur la croix qui accorde son pardon à ce bon larron repentant. Autrement dit, il y a, me semble-t-il, une invitation dans tous ces textes-là à faire œuvre de miséricorde, à imiter cette conduite extrêmement noble de celui qui, semble-t-il, ne distingue pas entre celui qui vient frapper à sa porte et qui a un titre à le faire parce que c'est un chrétien pratiquant et celui qui est un mécréant, voire celui qui est très loin de tout. Mes chers amis, je crois que c'est cela qu'il faut avoir devant les yeux, et il me semble que ce texte est donc très profitable pendant ces 2 semaines et demie de préparation au carême. Il faut que nous entrions dans la peau de ce Dieu, en réalité c'est toujours lui, Dieu le Père, qui apparaît derrière ces différentes figures, que nous entrions dans les mœurs du Père éternel. C'est bien cela le but du carême, plus que de faire toutes sortes de sacrifices. Dieu nous dit lui-même à travers la bouche de ses prophètes, ce n'est pas le sacrifice que je veux, c'est la miséricorde. Tout serait vain, évidemment, si nous n'avions pas cette bonté au cœur, si nous ne cherchions pas, pendant ce carême, à élargir notre cœur. Non pas en étant béni oui-oui et en cachant à l'autre parfois les fautes qu'il nous faut lui reprocher par correction fraternelle, surtout si nous avons la tâche de corriger en tant que parent, en tant que supérieur, que sais-je encore, mais il faut que tout cela soit tempéré dans un bain de miséricorde. Et je crois que cette année est particulièrement propice pour ce thème-là et pour un carême placé sous le thème de la miséricorde, puisque c'est le souverain pontife lui-même qui a eu la très belle idée de nous suggérer. Alors, relisez donc cette parabole en vous mettant dans la peau, non pas de l'ouvrier de la première, de la sixième, de la dernière heure, peu importe, et en vous disant qu'à chaque fois, il fait bon être quand même l'ouvrier de la 11e heure, ou au contraire de la première, peu importe. Regardez d'abord la conduite de ce maître qui est de miséricorde, qui, dans cette parabole, ne traduit que très imparfaitement l'infinie miséricorde de notre Père éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.